cours de philosophie éthique par le père Marie-Dominique Philippe, le 30 mai 2001 à Saint-Jodard.
Une première question un peu générale, mais c'est très bien de la reprendre maintenant. Ne pourriez-vous pas revenir un moment sur l'éthique chrétienne? Vous nous avez dit que l'éthique chrétienne, il faut la réflexion philosophique et la foi. Je comprends que la foi va permettre d'aller beaucoup plus loin, puisqu'alors le Christ est ma fin. Or, c'est bien la foi, c'est bien la fin qui commande l'éthique, toute l'éthique. Mais le philosophe qui n'est pas croyant, peut-il faire une éthique chrétienne, une critique chrétienne réellement? Point d'interrogation. N'en reste-t-il pas alors à la cause exemplaire, le modèle étant l'enseignement du Christ, sans voir la cause finale? N'a-t-il pas alors une éthique proche de celle des stoïciens? C'est vrai. Peut-il encore distinguer vraiment l'éthique chrétienne et l'éthique des stoïciens? Voyez, autre chose est de regarder l'éthique chrétienne comme l'éthique idéale. Elle est l'éthique idéale. Il n'y a pas d'éthique supérieure à l'éthique chrétienne. Ça, je peux l'affirmer en tant que philosophe et croyant. Si on croyait qu'il y a une éthique supérieure à l'éthique chrétienne, ça prouve qu'on n'a pas la foi, tout simplement. Je crois qu'aucun homme peut être supérieur à Jésus. Ça, c'est ma foi qui me dit ça. Et donc, aucune éthique ne peut être supérieure à l'éthique chrétienne. Et le croyant le dit d'une façon très nette. Si on croyait vraiment, du moins, si on disait qu'il y a une éthique supérieure à l'éthique chrétienne, ça prouve qu'on n'est pas chrétien. Tout simplement, on se met en dehors. Un non-chrétien dise que l'éthique chrétienne soit un idéal, mais il y a d'autres éthiques. L'éthique bouddhiste, l'éthique taoïque, beaucoup d'autres éthiques. Et le philosophe ne peut pas dire que l'éthique chrétienne, celui qui est purement philosophe, sans regarder sa foi, peut dire l'éthique chrétienne est parfaite. Je ne vois pas de brèche, de défaut. Je ne comprends pas tout. Ça m'échappe. La mort du Christ m'échappe. Et c'est vrai, hein? Philosophiquement, la mort du Christ m'échappe. Or, vous dites que la mort du Christ est essentielle à l'éthique chrétienne. Donc, l'éthique chrétienne, je ne la comprends pas entièrement. Les autres éthiques, je les comprends mieux. Elles sont plus humaines. Et c'est vrai, hein, les autres éthiques sont plus humaines. Hein, puisque l'éthique est humaine et divine, l'éthique chrétienne. Et l'éthique chrétienne, par le Christ, est totalement divine. Parce que dans le Christ, il n'y a pas un homme extérieur à sa divinité. Sa personne est celle du Verbe de Dieu. Donc, tout en lui est divin. Et dans l'éthique chrétienne, tout est divin. De sorte que je crois que l'éthique chrétienne ne peut vraiment se faire que par celui qui a la foi dans le Christ. Et qu'au point de vue philosophique, je dirais que l'éthique chrétienne, je peux en parler. Et tout ce que je vous dis maintenant, au point de vue philosophique, je pourrais le dire. Mais je dirais, il y a certaines choses que je ne comprends pas. La mort du Christ, le martyr, je ne comprends pas. Je comprends qu'on soit martyr pour sauver son peuple. Et martyr dans la lumière du Christ, martyr comme Jeanne d'Arc. Il y a les deux visions dans Jeanne d'Arc, tu vois. Pour nous, Jeanne d'Arc est une sainte, donc avant le pays et plus que le pays, il y a la volonté de Dieu, il y a les voies de Jeanne d'Arc qui sont capitales. À Fribourg, on prêchait régulièrement sur Jeanne d'Arc, de sorte qu'on étudiait beaucoup la sainteté de Jeanne d'Arc. Et Jeanne d'Arc est une sainte chrétienne. C'est pas seulement une citoyenne chrétienne, une citoyenne française. Non. Si je la vois au point de vue historique, je dirais ça, providentiellement, il y a eu une citoyenne pas bête du tout, qui a eu un courage héroïque et qui s'est offert pour sa patrie. Et c'est très vrai, elle est celle qui s'est offert. Mais en réalité, le motif de Jeanne d'Arc, et que Jeanne d'Arc soit si grande, c'est qu'elle dépassait la patrie. Elle avait compris qu'il fallait aider sa patrie pour rester chrétienne. Vous voyez ? Il y a une vision différente. Et c'est ce qui est intéressant au point de vue chrétien de regarder Jeanne d'Arc. C'est qu'on est devant un cas, un martyr. On ne dit pas la messe des martyrs, on dit la messe en blanc. C'est un martyr, Jeanne d'Arc. Et elle n'est pas martyr. L'Église ne la considère pas de cette manière-là. Mais je peux, moi personnellement, la regarder comme martyr. Je dis, je comprends très bien ses frontières. Et parce que ces frontières, l'Église insiste que c'est quelqu'un qui était conduit par le Saint-Esprit et conduit par le Saint-Esprit dans des réalités terrestres. Pour Jeanne d'Arc, il n'y avait aucun équivoque. Et c'est ça qui est si beau. Et c'est pour ça que le procès de Jeanne d'Arc est très beau et très intéressant au point de vue théologique. On voit la rigueur avec laquelle elle avait cette conscience de chrétienne et de patriote. Mais le point de vue patriotique n'a jamais passé devant. Oui. C'est la différence avec Maurras. Maurras était sûrement un très bon français, mais avec une conviction patriotique qui dépassait le point de vue de sa foi, sauf à la fin. Parce que j'ai vu le confesseur de Maurras, à la fin, quand Maurras était à la fin de sa vie. Et on a beaucoup parlé ensemble, parce que ça m'intéressait. Maurras est intéressant, et sûrement très intéressant. Pour son époque, c'était sûrement un homme très intelligent. Mais sa philosophie politique dépassait sa foi. Oui. L'Église était comme au service de sa foi. Alors que ça doit être l'inverse. C'est le point de vue politique qui doit être au service de sa foi. Alors voyez, l'éthique chrétienne remplace l'apologétique. Et ça, j'en suis sûr. Et donc, il réclame la foi. Quelqu'un qui ne serait pas croyant regarderait l'éthique chrétienne comme une éthique religieuse. Et au point de vue éthique religieuse, il y aurait plusieurs éthiques. L'éthique chrétienne aurait peut-être le premier prix, c'est possible, mais moi je crois que si on est très très loyal, l'éthique chrétienne est la première éthique religieuse. Mais vu de l'extérieur, c'est pas commode à le montrer. Parce qu'il faut déjà avoir la foi en montrant qu'elle est plus qu'une éthique chrétienne, plus qu'une éthique religieuse. L'éthique chrétienne, Jésus est plus qu'un homme religieux. Jésus est fils de Dieu. Mon Père, est-ce que l'amour humain implique-t-il le don de soi jusqu'à la mort sanglante? Sinon, quel est alors le don dans l'amour? Est-ce uniquement intentionnel? Alors, je commence par le bout. Non. L'ami n'est pas intentionnel. L'amour que vous avez pour un ami, eh ben, il y a quelque chose de substantiel puisque ça touche à personne. Et ce n'est pas non plus entièrement substantiel. C'est ça qui est toujours très mystérieux, même au plan philosophique, dans la causalité finale. Je comprends très bien comment Don Scott et un disciple de Don Scott qu'on a pris pour être thomiste, comment ils disent la causalité finale est métaphorique. Elle reste intentionnelle. Ce n'est pas aller jusqu'au bout de ce que c'est que l'amour d'amitié. L'amour d'amitié n'est pas qu'intentionnel. S'il n'est qu'intentionnel, ça prouve que vous n'avez jamais aimé vraiment un ami. Et des quantités de personnes demeurent dans l'amour intentionnel. Hein. Ça, j'en suis sûr, parce qu'ils résonnent tout de suite. Ils résonnent tout de suite. Ils sont à un niveau rationnel, à un niveau logique. Alors, au niveau logique, c'est sûr. L'amour d'amitié n'est pas seulement intentionnel. Il est intentionnel, et il est plus que cela. Alors, est-ce que je peux mourir, offrir ma vie pour mon ami? Je refuserai de traiter la question in abstracto. Et je dirai, dans chaque cas, c'est différent. Il peut se faire, dans certains cas, qu'on offre sa vie pour son ami. Puisqu'on peut offrir sa vie pour sa patrie. Celui qui lutte pour sa patrie dans une guerre juste. Dans une guerre juste. Il y a des guerres qui sont justes. Beaucoup de guerres ne sont pas justes. Et il y a des guerres qui sont justes. Et offrir sa vie pour sa patrie, c'est légitime et héroïque. Alors, la patrie. Est-ce que l'ami n'est pas plus que la patrie ? Vous voyez ce que je veux dire ? L'amour de l'ami est plus réaliste que l'amour pour la patrie. La patrie, c'est un tout. Et comme tout, il ne subsiste pas. L'ami subsiste. Alors prenons tout de suite ces deux cas. L'amour de la patrie, et l'amour de l'ami. Dans certains cas, il est légitime d'offrir sa vie pour son ami. Mais dans certains cas, je ne peux pas l'universaliser, le donner comme un principe. Bien que l'ami soit fin, mais pas fin absolue. Soit une fin relative. Et dans certains cas, l'ami peut devenir une fin qui est liée à ma vie chrétienne et être comme un absolu. Donc, cette question-là, je ne peux pas y répondre par oui, par non. Je dois montrer que l'amour humain implique-t-il le don de soi jusqu'à la mort sanglante ? L'amour humain implique le don de soi à son ami jusqu'à la mort. Dépend des circonstances. Je ne peux pas dire d'une façon absolue. Un père de famille peut accepter de mourir pour ses enfants. Dans certains cas, il luttera pour sauver la vie de ses enfants. Et il luttera. Et ça peut l'entraîner à la mort. C'est comme par rapport à la patrie. C'est la petite patrie, la famille. Et c'est le fondement de la patrie. Alors, par rapport à son épouse, doit-il défendre son épouse jusqu'à la mort ? présente son amour. Au point de vue chrétien, dans certains cas, quand il ne peut pas faire autrement, oui. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a dans l'amour d'amitié, il y a plus que un amour intentionnel. Puisqu'on touche une fin. On aime la personne. Et la personne n'est pas seulement une qualité formelle qu'on peut abstraire, qu'on peut idéaliser. Le don d'amitié implique le don de soi à l'ami. Et un don réel de nous-mêmes, puisque c'est un ami. Au point de vue chrétien, c'est sûr. Pour rester fidèle au Christ, j'accepte la mort. Pour rester fidèle au Christ. Quand je suis dans telle circonstance particulière, j'accepte la mort. C'est le martyr. C'est le don héroïque de soi-même. Par amour pour le Christ. Alors là, l'amour d'amitié est transformé par la charité et devient substantiel. Notre amour divin a quelque chose de substantiel qui peut exiger l'offrande de notre vie. Rester fidèle à cette finalité. Nous avions, dans notre recherche philosophique, touché comment charité transforme toutes les vertus. Elle est mère des vertus. Elle est la forme des vertus. Et ceci nous fait comprendre comment, à certains moments, elle peut réclamer le martyr. On ne va pas au-devant du martyr. Mais le martyr vient à nous. Aller au-devant du martyr, ce serait très souvent une présomption. On ne doit pas compter sur ses forces humaines. Et Dieu nous demande d'accepter le martyr. Parce que le martyr s'impose à nous. La transformation de la tempérance dans la chasteté peut exiger une chasteté parfaite. Alors que l'amour humain, comme amour humain, ne peut pas réclamer cette chasteté parfaite. L'amour divin peut. Et peut transformer la chasteté jusque-là. toute ma vie humaine qui se trouve transformée par la charité. Je veux, par amour pour Dieu, garder le célibat, garder une chasteté parfaite. Et c'est l'amour divin qui le réclame, qui le demande. Puisque l'amour divin peut s'imposer d'une façon telle que toute ma vie est orientée vers le Christ et pour le Christ. Parce que le Christ est Dieu et qu'il est notre Sauveur. Alors, il y a bien cette transformation complète que la charité réalise. Elle fait que la vertu de chasteté, sous l'action de la charité chrétienne, s'empare de moi d'une façon telle que je dépasse complètement l'amour humain d'époux et d'épouse, impliquant la fécondité. C'est une offrande de nous-mêmes pour accepter de rester seul dans une solitude d'amour pour Jésus. Jésus étant mon Sauveur et mon Dieu, il peut réclamer de moi cela. Et c'est comme ça que c'est introduit dans l'Église, très vite, cette attitude d'offrande de toute la vie par la profession solennelle, par la profession perpétuelle. On accepte délibérément, librement, d'être des eunuques du Père. Et c'est très net à cause de cet amour substantiel qui me lie à Jésus et qui peut réclamer de moi cette offrande de ma vie, cette coupe de ma vie très nette où je permettrai uniquement à mon amour divin de se développer. Et toute autre amitié devra garder cette chasteté parfaite et devra donc accepter cette offrande de nous-mêmes, de rester seuls avec Dieu. Et ça mettra nécessairement dans l'amitié humaine une offrande, une immolation normale qu'on fera à Dieu. On proclame par là que l'amour qu'on a pour le Christ est vraiment substantiel, qu'il peut s'emparer de moi d'une façon totale. et j'accepte que cet amour divin me prenne d'une façon totale. C'est le vœu de chasteté parfaite. Il y a un absolu très net, très fort. Ce vœu de chasteté parfait. Il pourrait y avoir des amitiés qui demeurent, et ces amitiés auront toujours cette note spéciale que Dieu et son amour demeurent. En ma vie, comme une offrande à Dieu, une certaine mort intérieure qui est un holocauste fait par amour pour Dieu. On évitera toutes les tentations qui pourraient conduire à un manque de chasteté parfaite. Parce que le vœu implique cela. L'exercice de notre vœu se fait dans une prudence éclairée par la charité. Et l'exercice de notre vœu de chasteté parfaite va impliquer nécessairement la fuite de tout ce qui pourrait être des tentations qui amèneraient à certains gestes, certaines attitudes qui risqueraient de supprimer cette chasteté parfaite. Toute une exigence de modifier notre comportement dans tel milieu. Vous voyez, la chasteté parfaite, regardant notre corps, étant directement, c'est notre corps qui est engagé. Et le corps, c'est le premier milieu qui permet d'agir correctement, d'agir selon les intentions profondes de notre âme. C'est dans notre corps que ça se réalise, dans nos gestes, dans notre imagination, dans nos choix de lecture, dans nos choix de vision. Il y a tout un milieu qu'on se crée à soi-même et pour soi-même. La vie religieuse communautaire crée ce milieu pour aider, sachant très bien les faiblesses que nous pouvons connaître. Il faut comprendre que le vœu de chasteté commande tout un style de vie qui n'est plus celui du monde. C'est difficile dans le monde de rester chaste. c'est difficile dans le monde tel qu'il est conçu actuellement, notre monde actuel, un monde laïque, un monde qui exalte l'érotisme, un monde qui, de fait, est conduit par une psychologie qui n'est plus finalisée, qui est uniquement un équilibre de vie. Et dans un équilibre de vie, beaucoup soutiendront que la chasteté parfaite déséquilibre. Alors, ça fait partie des marches du temps. On sait, en faisant profession, que la chasteté parfaite est loin de déséquilibrer. Elle nous permet d'être plus profondément religieux, plus profondément donné à Dieu et plus profondément donné au prochain. Parce qu'il n'y a plus de recherche de jouissance. On est en présence d'un amour qui est beaucoup plus tourné vers la miséricorde, vers le don de nous-mêmes. Quant au temps, qu'entre on doit être très attentif à cela. Ça fait partie de l'éthique religieuse qui peut aller jusqu'à la vie religieuse en réclamant le don de chasteté parfaite et en comprenant que ce don de chasteté parfaite, loin d'être un déséquilibre, permet d'aller jusqu'au bout de la vérité qu'on a contemplée en face de Jésus. La vie religieuse fait partie de l'éthique chrétienne. Elle est même la partie supérieure de l'éthique chrétienne. C'est là où l'éthique chrétienne est le plus parfaitement réalisée. Parce que la vie chrétienne prend les béatitudes comme règle de vie.